Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la librairie Mola où on a la chance et l'honneur, et les deux, d'accueillir ce soir Johan Chapoutot. Alors l'usage est qu'on se vouvoie, mais il y a des voussoiements qui vont être un peu compliqués puisque bon, on a quand même écrit un livre ensemble qui faisait une certaine taille, donc on se connaît depuis 20 ans, donc je vais me permettre de te tutoyer.
Oui, Seigneur.
Et on est très content de t'accueillir ce soir pour ce nouveau livre. Alors un livre jumeau ou un livre double. Johan Chapoutot, une histoire bien connue, et puis nouvelle édition, nouvelle traduction, nouvelle généalogie de la fameuse pièce de théâtre de Bertolt Brecht qui s'appelle La Résistible Ascension d'Arthur Houy. Donc dans une collection très intéressante hein, de L'Arche, publiée à Montreuil en avril 2026, c'est tout récent. Voilà, un livre qui fait la somme de l'œuvre de Brecht, mais avec voilà 70 pages qui n'est pas une introduction, mais qui est vraiment un texte historien qui fait regard avec cette œuvre de Brecht que j'espère vous avez lu et dont je vous recommande vraiment chaudement la lecture. Alors cette œuvre, pour aller assez vite, mais on va en parler, hein, c'est les manigances d'un malfrat et de gangster dans le Chicago des années 30 et des années 20-30. Il se trouve que ce Arthur Houy, c'est une métaphore d'Hitler. Et c'est un livre tout à fait, c'est une pièce de théâtre publiée en 1941 avec une très grande clairvoyance. Et puis Johan Chapoutot, je n'ai pas tellement besoin de le présenter. Des classiques désormais, hein, évidemment La loi du sang, 2014, Le libre d'obéir, 2020, plus récemment Les irresponsables, 2025, qui s'est très très bien vendu. Et donc on va aussi, parce qu'il y a une sorte de lien entre Les irresponsables, ton dernier livre, et ce livre-là, on va revenir hein, sur ces éléments-là. Et puis comme d'habitude chez Mola, on a une heure de débat tous les deux. Je vais poser des questions pour que ce soit dynamique. Et ensuite, il y aura vos questions à vous, courtes et percutantes. Et puis, vous pourrez retrouver Johan derrière pour discuter de tous ces livres. Hein, donc, on aura du temps pour ça. Voilà, donc bienvenue Johan. Je suis très content de te voir. Et puis, la première question, elle est toute bête. Hein, c'est pourquoi Brecht ? Brecht du théâtre politique, Brecht de Sainte-Jeanne des abattoirs, de l'opéra de Katsou. Qu'est-ce qui t'a amené vers Brecht et dont tu fais, une biographie historique très intéressante, une sorte d'histoire allemande à travers Brecht dans le début du livre.
Merci Nicolas. Et alors, il faut dire que c'est une nouvelle collection qui a été créée par Claire Stavot, la nouvelle directrice de l'Arche, qui consiste à faire dialoguer des pièces de théâtre avec des chercheuses et des chercheurs en sciences humaines. Ce livre ouvre la collection avec un autre, celui de Sandra Lucbert, qui commente et qui met en perspective une pièce de Strindberg. Et donc là, ou d'Ibsen, je ne me souviens plus, pardon. Et donc là, il s'agissait de Bertolt Brecht. Ça a été une sollicitation de la maison d'édition que j'ai accepté tout de suite parce que spontanément, tu parlais des Irresponsables, qui est un livre paru donc il y a un an, un petit peu plus d'un an, spontanément, dans le dialogue que je pouvais avoir avec des journalistes, par exemple, je citais systématiquement Brecht pour dire, et précisément cette pièce-là, La résistible ascension d'Arthur Houy, pour bien répéter que ce que je disais, moi, dans Les Irresponsables, n'était pas ni exubérant, ni échevelé, ni particulièrement original, puisque aussi bien, dès les années 30, on savait que l'arrivée des nazis au pouvoir n'avait rien eu d'inéluctable, qu'elle avait été foncièrement résistible. C'est-à-dire qu'elle n'avait absolument aucun caractère de fatalité. Et donc, sur ces entrefaites, je reçois cette sollicitation. Alors, à l'origine, c'était censé être une préface. Et puis, la nature de la collection a évolué en cours de route. Et donc, je me suis retrouvé avec un essai de 90 000 signes qui, effectivement, consiste à resituer l'œuvre et la carrière de Brecht, son propos, mais également à faire un commentaire de cette pièce de théâtre qui transpose l'histoire de l'arrivée des nazis au pouvoir dans le milieu des gangsters de Chicago dans les années 20, début des années 30.
Et alors, Brecht, tu en fais une présentation, comme je disais, une sorte d'histoire allemande de la vie de Brecht, alors, notamment alors, des choses que tu connais bien, évidemment, nazisme et antiquité, ta thèse de doctorat et ton premier grand livre, où tu revenais sur ces héritages-là. Brecht, il est né à Augsbourg, et tu en dis quelque chose. Est-ce que c'est ce lieu de la...
Oui.
La confrontation entre le protestantisme et le catholicisme.
La confrontation et la cohabitation. Un de mes directeurs de thèse, Étienne François, avait fait son habilitation sur Augsbourg, un livre qui s'appelle La frontière invisible, pour parler de cette ville du sud de l'Allemagne. C'est très important, le régionalisme en Allemagne. Brecht est issu donc du sud de l'Allemagne, de cette ville précisément, Augsbourg, qui métaphorise la coexistence possible entre catholiques et protestants depuis le 16e siècle, puisque c'est à Augsbourg qu'a été négociée la première paix de religion de l'histoire du monde, en réalité, la Confessio Augustana, puisque c'est Charles Quint qui l'a paraphée et qu'elle a été effectivement négociée à Augsbourg. Et après 1555, donc cette date qui marque l'achèvement du premier cycle de guerre de religion en Europe, qui s'était déclenché en 1529 avec la révolte des princes protestants en protestation contre la politique religieuse de Charles Quint, eh bien, ça a marqué la défaite en réalité du catholicisme et de l'Empire, puisque de fait, la confession augustine de 1555, la paix de religion d'Augsbourg, permettait la coexistence légale, officielle, de deux types de religions, de deux types de manières d'adorer le Christ, de remplir son office dominical, etc. Ce qui était pour les catholiques quelque chose d'insupportable et qui ensuite a inauguré d'autres cycles de guerre de religion dans l'Empire, dans le Saint-Empire romain germanique, mais aussi dans le Royaume de France. Je reviens là-dessus parce que Brecht était lui-même issu d'une famille multiconfessionnelle. Et son père était catholique, sa mère était protestante. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que son père avait suivi un cursus un peu hypergamique en se promouvant socialement, en épousant une protestante. Épouser une protestante, se rallier à des protestants, c'est se rallier à des gens qui savent lire, écrire, compter, à des gens qui ont une pratique de la littération et de la culture. Et Brecht a grandi dans ce milieu-là. En héritant un goût particulier pour la culture religieuse, c'est quelqu'un qui connaît très bien Luther, qui connaît très bien la Bible. Il avait une grand-mère très pieuse qui le bassinait avec ça. Et par ailleurs, en concevant une forme de scepticisme assez distant vis-à-vis des discours absolus en termes de religion, mais aussi en termes de politique. Parce que quand Brecht va embrasser le marxisme, il va le faire, et de manière très convaincante, il va garder quand même un quant à soi de liberté de pensée, de liberté critique.
Alors, merci pour cette présentation de Brecht. Alors, qu'on soit clair, j'ai souvent le débat avec des amis. Les gens ont du mal à lire du théâtre. Moi, ça n'engage que moi, ça n'intéresse personne. Moi, j'adore en lire. Souvent, on préfère le voir mis en scène, mais on ne va pas alors résumer la pièce de Brecht. Mais vous trouvez en fait un certain nombre de personnages qui sont des personnages historiques. Arthur Howe, c'est Hitler et sa résistible ascension. Vous avez Roma, qui est Ernst Röhm. Vous avez Göring, qui est Giry, etc. Et on va en venir maintenant aux questions proprement historiques de ton essai et puis aussi des irresponsables. Ce que j'ai trouvé incroyable au moment où j'ai lu Brecht, c'était sa compréhension, le livre date de 1941, de manière extrêmement fine, de choses que des historiens ont mis des dizaines d'années à comprendre. Et ce qu'il avait compris, mais ça on va en débattre tous les deux et puis avec vous, c'est que la victoire nazie, l'arrivée au pouvoir d'Hitler le 30 janvier 1933, dont on entend en permanence qu'elle est une arrivée légale, démocratique, et qu'une majorité d'Allemands ont voté pour Hitler, tout ça, c'est faux. Il y a effectivement, tu l'écris, une conspiration des élites politiques de l'époque pour mettre Hitler au pouvoir. Et ce que les nazis appelaient la Machtergreifung, la prise du pouvoir, n'est pas une prise du pouvoir, c'est on leur a donné. Bon, Mussolini, on lui a donné aussi en 1922. Et dans Brecht, on sent ça. C'est-à-dire, on voit une petite clique de mafieux absolument minables, qu'on reconnaît parce qu'il y a aussi, d'une certaine manière, on y reviendra après, Hindenburg, von Papen, Schleicher. Et du coup, dernière question sur Brecht. Est-ce que toi, tu considères qu'il était en 1941 pleinement clairvoyant ou d'autres avaient déjà vu ça? C'est-à-dire le fait que tous ces hommes conservateurs, des élites bourgeoises, patrimoniales, avaient en fait décidé de mettre Hitler au pouvoir?
En réalité, c'est pour ça que j'ai intitulé mon petit essai « Une histoire bien connue », parce que de fait, c'est le sous-titre que Brecht donne lui-même à sa pièce. Il parle d'une histoire de gangster bien connue. Et ce titre est ironique, je l'ai repris de manière ironique, parce que de fait, c'est une histoire qui est désormais totalement méconnue. Parce que la Vulgate des plateaux, qui est celle des comptoirs, au fond, hein, c'est le même niveau de clairvoyance intellectuelle et de compétence, c'est que, tu l'as répété, Hitler a été élu, les nazis ont gagné, etc., ce genre de baliverne qu'on entend souvent, et dont j'ai fait un petit peu l'archéologie dans Les Irresponsables, pour le coup, parce que j'ai essayé de voir pourquoi on répétait si souvent cette bêtise. À mon avis, ça a une fonction, on va dire, sociale et politique très claire, qui est, premièrement, de mettre en inculpation la démocratie et le suffrage universel. Donc, si le suffrage universel met les fascistes au pouvoir, il faudrait peut-être revoir la chose, premièrement. D'où la tentation censitaire, hein, de plein de gens actuellement, que ce soit du Parti républicain aux États-Unis, qui ouvertement veut réduire le suffrage, jusqu'aux libéraux autoritaires européens et français, qui s'abstiennent très courageusement d'encourager les gens à aller voter. Maintenant, de fait, un caractère censitaire, socialement, factuellement, au suffrage, et déplorant avec des larmes de crocodile les taux d'abstention, tout en s'en accommodant très bien, puisque de fait, il y a une sélection sociale par du suffrage. Donc, je suis revenu sur cette histoire-là, et j'ai voulu effectivement montrer à quel point Brecht avait été clairvoyant, mais il l'a été parmi tant d'autres, surtout chez ceux qui avaient une formation. Alors, de ce que, lorsqu'on est impoli, on appelle le marxisme, ou plus poliment, on appelle le matérialisme historique. C'est-à-dire des gens qui ont une vision d'histoire qui identifie des acteurs, des classes sociales, des intérêts sociaux, une idéologie, une pragmatique. Et cette idéologie, cette pragmatique, a conduit les libéraux autoritaires qui gouvernaient l'Allemagne, en gros, en 1932, à estimer rationnellement et raisonnablement que leur intérêt était de faire alliance avec l'extrême droite, parce que cet extrême centre, et là je reprends le terme de Pierre Cernat, ces libéraux autoritaires avaient les mêmes ennemis, la gauche, quelle qu'elle soit, y compris des sociodémocrates délavés et bien tempérés, la même clientèle, les mêmes mécènes, les mêmes fournisseurs de subsides, hein, pour aller vite, le grand capital, là aussi pour être impoli, en tout cas tous les types de capitaux allemands, et également, au fond, la même philosophie politique et la même anthropologie, qui était fortement hanté sur le darwinisme social. Il y a ceux qui ont réussi, ceux qui ne sont rien, comme vous le savez. Donc tout cela faisait que, au fond, l'alliance entre l'extrême centre et l'extrême droite était très simple. Et de fait, c'est ce qui s'est noué en janvier 1933 dans des conciliabules. Tu parlais de conspiration, et je reprends ce terme-là, mais au sens allemand. Le terme conspiration en français fait un peu songer à Balzac, hein, l'histoire des 13 et à des demi-jours interlopes de complot. Alors de fait, ça a été un complot, et le terme conspiratif est très présent dans l'historiographie allemande pour désigner ce qu'il se passe en janvier 1933, lorsque de rendez-vous secret, mais assez vite éventé en réalité, le 4 janvier 1933 chez le banquier Schröder entre Papen et Hitler, jusque au dîner bien arrosé d'ailleurs chez Joachim von Ribbentrop, qui fournissait les vins et spiritueux, puisque c'était son métier dans la banlieue de Berlin à Dahlem. Ces réunions secrètes, ces discussions qui étaient discrètes, étaient de nature conspirative, puisqu'il s'agissait de consacrer un pouvoir solide en Allemagne, fondée sur l'alliance entre extrême centre et extrême droite, dans le dos du public et au mépris du suffrage universel, puisque, rappelons-le, ça c'est quelque chose que je rappelle dans ce texte-là, comme je l'avais longuement développé dans Les Irresponsables, les nazis sont en chute libre, hein, à l'automne 1932, et en chute libre d'un point de vue socio-électoral. Donc la manière dont on nous présente les choses d'habitude, hein, d'une poussée à la fois qu'elle soit tectonique ou hydrographique, enfin bref, d'un phénomène naturel incoercible, ne correspond en rien à la réalité. Il y a eu d'autres facteurs qui ont poussé à ce que les nazis, non pas prennent le pouvoir, hein, le terme de Martha Greifung est ridicule, c'est une auto-stylisation, hein, de leur histoire, mais ce qu'on leur donne le pouvoir le 30 janvier 1933. Ensuite, ils vont le prendre, mais ils le prennent après le 30 janvier, dans six mois décisifs jusqu'en juillet 33. Mais en l'occurrence, en janvier 33, on leur a donné le pouvoir, on leur a offert sur un plateau, à un moment d'ailleurs où eux-mêmes n'y croyaient plus. Hein.
Ce qui me permettra, mais j'en reparlerai à la fin, d'annoncer ton prochain livre en septembre chez Gallimard, hein, sur 1933, La Bascule, qui est en fait la suite des Irresponsables, pour montrer comment, pour le coup, une fois qu'on leur a confié le pouvoir, les nazis ont pris le pouvoir. Le terme est inventé après, mais ils l'ont fait. Alors, je reviens sur ces éléments que tu viens de donner. On peut considérer, pour revenir à des éléments de contexte généraux, que l'arrivée au pouvoir des nazis, qui est quand même un élément, un des événements les plus importants dans ses conséquences du XXe siècle, est la résultante de trois choses. On reviendra sur les élections un peu après, mais une politique de violence et de guerre civile. Donc quand on dit que c'est une victoire légale, bon, je vous renvoie au meurtre de Weimar de Johann, hein, qui explique bien comment appeler une victoire légale quand il y a 400 morts pendant les élections de 1932, c'est un peu compliqué. Mais j'en reviens vraiment à ce qui nous occupe aujourd'hui. Dans Les Irresponsables et dans ce livre-là, tu montres bien qu'il y a voilà, des gens que vous n'êtes pas nécessairement, que vous connaissez pas nécessairement, et c'est pas grave, Franz von Papen, Kurt von Schleicher, et le président de la République, donc Paul von Hindenburg, c'est pas des gens très connus, mais en fait, c'est ces hommes-là qui, dans des questions d'ego, de lutte de pouvoir interpersonnel, de mauvais calculs politiques, voire de mauvais calculs assumés politiques, c'est eux qui vont mettre Hitler au pouvoir. Alors, on va pas redérouler Les Irresponsables, mais je trouve que la pièce de Brecht et ton essai dans ce livre-là montrent bien, et c'est pas un mot, voilà, que je dis de manière légère, la médiocrité de ces hommes-là, c'est-à-dire leur incompréhension de qui est Hitler, leur incapacité à percevoir les conséquences de leur acte. Est-ce que tu pourrais éclairer, alors assez, enfin, rapidement, tu as du temps, mais c'est pourquoi les motivations d'un Hindenburg, les motivations d'un Papen ou d'un Schleicher pour faire ça, c'est-à-dire c'est ils savent quand même obscurément que ça peut avoir des conséquences. Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Est-ce que c'est vraiment... Alors, chez Brecht, ça devient des... En fait, c'est des gangsters dans Chicago, des États-Unis, qui font du deal de maraîchage. Ils font brûler des entrepôts. Alors, l'entrepôt, c'est l'incendie du Reichstag, etc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des gougnafiers entre eux qui... Ouais. Voilà.
Et puis, c'est un commerce trivial, parce que Brecht met en scène le gang des choux-fleurs, du trafic des choux-fleurs à Chicago. Et de fait, les motivations... Tu parlais de médiocrité. Les motivations de Hindenburg et son entourage, singulièrement sa famille, parce que leurs intérêts fiscaux et sociaux sont... en jeu, et réputationnel également, ces intérêts-là sont d'une médiocrité, d'une trivialité accablante. Mais pour revenir justement à ce dont tu parlais tout à l'heure, qui était conscient de cela, le fait de transposer l'histoire du nazisme dans un milieu de gangsters, alors déjà c'est lié au soft power américain, déjà du cinéma américain dans les années 20, à la diffusion des films de gangsters, à la véritable guerre, quasi guerre civile, hein, autour de la prohibition et à l'émergence de grandes figures du milieu et dans la presse et dans le cinéma. Et il se trouve que Brecht traduit cela dans sa pièce, mais il n'est pas le seul. Je rappelle dans l'introduction que Fritz Lang, par exemple, hein, dans deux films, a transposé lui aussi le mouvement nazi dans le milieu. Et vous avez M, donc M le maudit en traduction française, et vous avez le testament du docteur Mabuse aussi, qui montre qu'on a affaire là à une entreprise criminels, de gens qui ne se battent que pour l'argent, que pour le pouvoir, avec la figure de Gustav Gründgens dans M. le Maudit, hein, et puis la figure de Mabuse dans Le Testament. Alors, les motivations de ces gens-là, elles sont de plusieurs ordres. Il y a plusieurs registres. Il y a une motivation de politique générale qui consiste à considérer que l'Allemagne a vocation à être gouvernée par la droite et que dès lors la gauche ne peut être présente que par effraction. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental chez un homme comme Paul von Hindenburg, qui est véritablement un fossile vivant de l'Ancien Régime. Hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est né en 1847, il était jeune lieutenant à la bataille de Sadovan en 1866, il était présent à la Galerie des Glaces en 18 janvier, au moment de la proclamation de l'Empire, et il était à la retraite quand on l'a, avant 1914, et on l'a rappelé comme le colonel Pétain d'ailleurs, hein, sur lequel on a ensuite cousu deux étoiles rapidement, on l'a rappelé au service actif parce qu'il y avait besoin de cadres. Donc c'était déjà quelqu'un qui était très âgé avant 1914 et qui charrie toute la culture de l'Ancien Régime, du Kaiserreich, qui considère que les sociodémocrates sont des rouges, sont des marxistes et dès lors n'ont rien à faire au pouvoir. Hindenburg, qui a été élu en 1925 président du Reich, a eu le bonheur de gouverner avec la droite pendant 3 ans, mais manque de chance, la gauche gagne en majorité relative, ce qui peut rappeler 2-3 souvenirs, en 1928. Et là, il n'appelle pas un social-démocrate à la chancellerie, alors que ce sont devoirs constitutionnels, hein, tout simplement. Comme vous le savez, en démocratie censément parlementaire, il n'y arrive pas. C'est quelque chose de l'ordre de la révulsion physique. Il ne peut pas recevoir un marxiste. Alors, quand on parle de marxisme, là encore, il faut voir à quoi on a affaire. Hein. C'est sociaux-démocrates allemands, ils ont massacré des communistes, ils sont austéritaires. En plus, les sociaux-démocrates de gouvernement, c'est la droite du SPD. Il met trois semaines, à appeler à la chancellerie Hermann Müller. Il ne le reçoit même pas, d'ailleurs. C'est d'ailleurs assez discourtois du point de vue des usages constitutionnels. Et le SPD crée un gouvernement de grande coalition avec la droite, donc, un SPD très modéré, grande coalition avec la droite, ça va, hein, c'est pas, on va pas avoir une politique forcément léniniste, mais c'était déjà trop pour le patronat allemand, l'équivalent du MEDEF à l'époque, qui s'appelle le RDI, le Reichsverband der Deutschen Industrie, qui rentre en guerre contre ce gouvernement-là. Et ce qui est très intéressant, et là encore, ça contrecarre un petit peu ce que l'on lit un petit peu partout, ce qu'on entend, hélas, c'est que dès le printemps 29, donc on est 6 mois avant le déclenchement d'une crise de l'autre côté de l'Atlantique, une crise financière, au printemps 1929, le général von Schleicher, qui est le numéro 2 du ministère de la guerre, approche un parlementaire du Zentrum, quelqu'un d'important, qui est le chef du groupe parlementaire du Zentrum, le docteur Heinrich Brüning, pour lui dire qu'il faut qu'il se prépare à assumer la charge de la chancellerie. Brüning lui dit « Mais je veux bien, mais je n'ai pas de majorité, ne vous inquiétez pas, on va vous armer par les pouvoirs d'exception de l'article 48, alinéa 2 de la Constitution de 1919 ». Donc il a véritablement eu une décision prise autour de la famille Hindenburg, dès le printemps 1929, de mettre fin à la démocratie parlementaire allemande. C'est pour ça que lorsqu'on entend que l'Allemagne aurait été, se serait suicidée, c'est pas suicidée, ou qu'elle aurait été assassinée par la crise de... Non, elle a été, oui, assassinée, mais par des gens qui, du cœur même du pouvoir, ont décidé de mettre fin à la démocratie libérale et parlementaire. Et cette expérience-là d'un gouvernement présidentialiste, qui a gouverné par ordonnance pendant 2 ans, de 1930 à 1932, cette expérience-là a été une catastrophe, puisque la politique de déflation, c'est-à-dire la politique d'austérité, d'Heinrich Brüning a aggravé la crise. Dès lors, on a remplacé l'entourage présidentiel, ce qu'on appelait la Camarilla, le petit cabinet, la petite chambre autour d'Hindenburg, qui était composée de lumière. Hein. On dirait l'entourage d'un président actuel, si vous voulez. Hein. C'est des gens Non, mais c'est normal, parce que dans un contexte monarchique, on est en contexte de pouvoir personnel, ne reste autour du prince que ceux qui n'ont ni colonne vertébrale, ni personnalité, ni véritable idée, ni honneur, ni souci d'eux-mêmes. Hein. Il reste des conseillers qui ne sont plus des conseillers parce qu'ils ne donnent plus des conseils. Hein, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis en ce moment des yes men, hein, des gens qui vont approuver la dernière inspiration géniale ou la dernière idée ébouriffante du chef. Et en l'occurrence, on remplace Heinrich Brüning par Franz von Papen, qui lui aussi a une politique désastreuse. Alors il passe, lui, de la politique de restriction budgétaire à une ouverture des vannes du budget, donc finalement le budget n'était pas si important. Il passe à une politique de l'offre, ouvertement et violemment pro-patronale, qui ne marche pas non plus. Et c'est ce Franz von Papen qui, allant de défaite électorale en défaite électorale, parce que Hindenburg a été lassé par le rôle qu'on lui a attribué, hein, de centralité, de signature d'ordonnance présidentielle, Hindenburg souhaite quand même que son gouvernement, enfin les gouvernements qu'il nomme, retrouvent une sorte de majorité de droite à l'Assemblée. C'est pour ça qu'il y a 2 dissolutions à l'été et à l'automne 1932, qui aboutissent à des catastrophes pour les libéraux autoritaires, et ce sont eux qui se résolvent à s'allier avec l'extrême droite, l'extrême droite nazie. Ce greffe sur ce plan-là, ce plan, on va dire, politique, de philosophie politique, qui est le plus élevé au fond, hein, des considérations, et tu le disais, d'une médiocrité insigne. En l'occurrence, le facteur personnel, le facteur réputationnel de la famille Hindenburg joue à plein. Il se trouve que les Hindenburg sont des grands propriétaires terriens de l'Est, des grands agrariens, des grands latifondières, qui bénéficient d'une politique sociale, fiscale, d'une politique budgétaire outrageusement avantageuse aux grands propriétaires terriens. Bizarrement, ça s'est déclenché en 1926, un an après l'élection de Hindenburg à la présidence du Reich. Et il y a des malversations, de la concussion, de la prévarication. Ça commence à se savoir. La presse s'en fait l'écho à partir de l'automne 1932. Et une des promesses d'Hitler lors de d'une entrevue décisive entre lui, en tête-à-tête, entre lui et le fils Oscar von Hindenburg, la promesse, ça a été, un, de stopper la commission d'enquête parlementaire, déjà, hein, stopper la commission d'enquête parlementaire qui enquêtait sur ces malversations de la, ce qu'on appelle la Osthilfe, les aides aux grands propriétaires terriens de l'Est, premièrement, et deuxièmement, d'arrêter toute campagne de presse contre la famille Nunnberg. Ça s'est joué à ça, quand même. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que quelque chose qu'on nous présente à longueur de plateau comme étant une espèce de concaténation historique inévitable, d'arriver au pouvoir inéluctable, en réalité, a tenu à un tout petit fil, qui est très lié à des intérêts triviaux, bel et bien ceux qui sont mis en scène par Brecht, qui a magnifiquement exemplifié cela. Parce que ce que je dis là, et ce qui peut faire écarquiller certains yeux, en réalité, était connu de tous. Parce que, de fait, on lisait la presse beaucoup. Hein. L'Allemagne est un pays de presse et de lecteurs de presse. Et tout le monde savait ce que c'était que la Osthilfe, donc les aides aux grands propriétaires, et les malversations frelatées hein, de la famille Nunnberg.
Alors, merci, merci pour ça, mais c'est vrai que je fais un tout petit retour en arrière, alors pas sur ce que tu dis, mais sur d'où on parle aujourd'hui. Moi, mon sentiment, alors je ne me suis pas présenté, mais Nicolas Patin, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de l'Allemagne aussi, depuis le Brexit et l'arrivée de Trump au pouvoir en 2016, il y a eu quand même une vague de publications sur ces questions-là, Benjamin Carter Head, Timothy Reback, Thomas Weber ou autres, Peter Rosrange, qui montrent bien, et notamment une grosse biographie d'Hindenburg, d'un collègue qui s'appelle Wolfram Pitta, et qui, nous, on est là avec nos idéaux et notre vision structurelle de l'histoire, et on voit que Hindenburg, notamment mi-janvier, quand éclate vraiment massivement dans la presse le scandale de l'aide de l'Est, en fait, tout simplement, il a perdu la face. Et donc, une manière de reprendre la main, c'est ça, et effectivement, chez Brecht et dans ce que tu dis, ça fait froid dans le dos parce qu'on voit bien que cette décision-là, elle est absolument pas pesée. Elle est faite par des gens qui n'ont qu'un seul intérêt, le leur. Bon.
Ce qui est d'ailleurs un risque majeur hein, du pouvoir personnel et d'une structure constitutionnelle ou d'un dispositif constitutionnel qui donne autant de pouvoir à un seul homme et à son entourage. Je le dis de manière assez nette parce que la généalogie, enfin mon raisonnement dans les irresponsables comme ici, il est analogique, mais il est aussi généalogique. C'est-à-dire que notre constitution de 1958 est directement, mais ouvertement, et c'est explicitement dérivé au sens mathématique, hein, de non pas la constitution de Weimar de 1919, mais de la torsion présidentialiste et autoritaire de cette même constitution à partir de mars 1919, c'est-à-dire à partir du moment où un entourage présidentiel a décidé de ne plus respecter la logique parlementaire du régime et de gouverner par état d'exception permanent. Ce qui a eu deux défauts majeurs. Premièrement, accoutumer les Allemands à l'idée qu'on pouvait bien voter mais qu'on n'allait pas respecter les résultats des élections. Ça évoque peut-être d'autres choses à un public français. Et deuxièmement, que l'on ait gouverné par état d'urgence permanent. Donc quand les nazis sont installés, mais vraiment, hein, sur un plateau, si vous voulez, au pouvoir le 30 janvier 1933, et qu'ils disent, bah, écoutez, on se moque des élections, premièrement, et deuxièmement, on va gouverner par état d'urgence permanent, bah oui, ça fait 3 ans que ça dure. Donc il y a quand même une accoutumance très dangereuse, d'où le terme d'irresponsable dont j'ai usé dans un livre précédent, pour désigner les acteurs que tu nommais, mais aussi leurs avatars contemporains.
On est toujours rassuré, c'est bien à t'écouter, on est toujours content.
Mais non, ça veut dire que rien n'est écrit aussi. Hein.
On viendra à la fois sur les questions de l'analogie et de ta manière de faire de l'histoire, de tes méthodes, juste parce que j'aime bien te taquiner et parce qu'effectivement, ce sujet-là, il vient pas sur un terrain vide. Et c'est normal, vous avez tous et toutes en tête l'idée que les nazis ont gagné les élections. Alors, on rappelle juste quelques éléments qui sont assez faciles à retenir, hein, même si on n'aime pas les chiffres. En 1928, les nazis font le score incroyable, incommensurable, magnifique, de 2,6% aux élections législatives. Voilà. C'est vous dire à quel point tout ça était irrésistible. Il y a un grand choc en septembre 1930, où là, pour le coup, ils ont 18,3% des résultats. C'est un assez gros tremblement de terre. Mais bon, tu vas y revenir, je pense. Mais la crise est déjà là, en fait, à ce moment-là. La crise gouvernementale est déjà là. Et puis, quand même, le 31 juillet 1932, le NSDAP fait le score de 37,3% aux élections. Alors déjà, j'introduis ma question, hein, mais ce n'est pas une majorité d'Allemands. Jamais une majorité d'Allemands n'a voté pour Hitler. Ça, pour le coup, vous pouvez repartir d'ici et de cette belle librairie en contrant cet argument-là. Ça n'est jamais, strictement jamais arrivé, ni même dans l'élection du 5 mars 1933, celle d'après, qui n'est plus dans un cadre légal. C'est après l'incendie du Reichstag, où même là, les nazis n'arrivent pas à faire une majorité. Il n'en demeure pas moins que ces 37,3%, c'est le deuxième meilleur score ouais. aux élections sous Weimar, après le Parti social-démocrate ouais. en 1919. Et donc, dans un article récent, du 26 avril, alors tu me dis si il y a eu une transformation de ta pensée par les journalistes, parce qu'ils aiment bien faire ça, tu disais, le gros titre, c'était « Les nazis n'ont jamais gagné d'élection ». Et alors, évidemment, comme j'aime bien te taquiner, mais parce que je pense que c'est aussi important, de, comme tu viens de commencer à le faire, de réinsérer ces résultats-là dans le contexte, alors, qu'est-ce qui se passe ? 37,3, c'est quand même pas rien. Ah, oui, oui. Quelle place a cette victoire-là dans le processus que tu es en train de nous décrire ?
Alors, formellement, aucune, parce que, encore une fois, comme depuis mars 1930, le président du Reich et son entourage ont décidé de ne plus respecter l'usage constitutionnel d'appeler le chef ou le représentant du parti rêvé en tête au pouvoir, Hitler n'est pas, alors qu'il aurait dû l'être, en bonne logique. D'ailleurs, ça n'aurait pas été forcément une mauvaise idée, parce que Hitler aurait été mis face à l'impératif de constituer une majorité parlementaire au Reichstag, qu'il n'avait pas. Donc là, l'hypothèse qui se dessinait à ce moment-là, au niveau du Landtag de Prusse, puisqu'il y avait, il faut bien rappeler qu'on est en système fédéral hein, et fédéraliste. Donc là, on parle des élections nationales au niveau du Reich, mais vous avez 18 élections dans 18 États, avec 18 gouvernements et 18 constitutions en Allemagne à cette époque, dans les différents Länder. Il se trouve qu'il y a eu une grosse élection en avril 1932 en Prusse, dans le Land, qui est le plus massif hein, d'Allemagne. C'est 2/3 du territoire du Reich, 2/3 de la population. Et là, les nazis ont fait 36%. Et l'hypothèse qui s'est développée en Prusse à ce moment-là, c'est un gouvernement de coalition entre les nazis et les chrétiens démocrates, en l'occurrence le Zentrum, donc coalition noire-brune ou brune-noire, hein, les bruns c'est les nazis évidemment, et les noirs c'est la couleur du parti du Zentrum. Et alors ça ne s'est pas fait en Prusse, parce que le Zentrum n'en est pas là à ce moment-là, et l'Église non plus. Hein. L'Église qui est très, évidemment très influente dans la politique du Zentrum, puisque c'est un parti catholique organique hein, depuis Bismarck. Et on parle également de cette hypothèse au niveau du Reich, mais là encore, ni le Zentrum ni l'Église ne sont prêts à ça. Ils vont l'être en mars, avril 33, mais on n'en est pas encore là. Il ne faut pas, surtout pas faire de théologie. Donc, si Hindenburg avait voulu démonétiser ou désarmer l'hypothèse Hitler, il le nommait chancelier et Hitler se prenait un mur au Reichstag. Voilà. Ça aurait été une manière de peut-être dégonfler cette baudruche nazie qui, de fait, va se dégonfler elle-même, puisque ce Reichstag élu le 31 juillet et dissous le 12 septembre. Le chancelier Papen a été renversé à une majorité de 92,5% des voix du Reichstag. Hein. Bon, c'est dire, voilà. Et la dissolution aboutit à une nouvelle élection, un nouveau scrutin le 6 novembre 32, où là, les nazis chutent à 33%. Alors, ça reste énorme, mais quand même, vous voyez la dynamique. Hein. La dynamique était d'ascension logarithmique, en fait, depuis 1928, tu l'as rappelé. Hein. On passe de 2,6 à 37,3, c'est quand même énorme. Là, la courbe est cassée. Or, la dynamique nazie est absolument majeure, fondamentale dans la manière dont les nazis se représentent eux-mêmes et veulent accéder au pouvoir. C'est d'ailleurs très, comment dire, très lié à une idéologie très social-darwinienne, brutaliste, d'extrême droite. Le succès appelle le succès, il est irrésistible. C'est une ordalie permanente qui confirme qu'on est les meilleurs. Bon, bah là, c'est plus le cas. Au niveau du Reich, en 3 mois, ils perdent quand même 2 millions de voix, 40 députés et 4 points. Mais alors, pire que ça, vous avez toutes les élections locales. L'Allemagne est en scrutin permanent en réalité. Hein, parce qu'avec 18 Länder et des stratifications électorales qui font que vous avez des élections de canton, des élections municipales, des élections au Landtag, etc., vous avez des scrutins permanents. Et ce que l'on voit à l'automne 32, précisément d'ailleurs dans des régions, mais ça Nicolas le sait mieux que moi parce que ce qu'il ne précise pas, ce chafouin, c'est que lui il travaille sur l'histoire électorale et socio-électorale du Reich actuellement.
C'est toi l'invité.
donc je pars sous ton contrôle, comme on dit, mais là c'est vrai. À l'automne 1932, tous les scrutins locaux, précisément dans des bastions nazis, on parle de la Thuringe, de la Saxe, du nord de l'Allemagne, de la Prusse orientale, montrent des dévissages de 10 à 40 points. C'est-à-dire que les nazis, à certains endroits, sont rayés de la carte électorale avec une élection symbolique hein, dont Goebbels parle de manière traumatisée dans son journal en décembre 32, qui est l'élection municipale à Weimar, l'élection du maire de Weimar. Alors, ville très importante parce que ville de la constitution, etc., mais ville de droite, voire d'extrême droite. Là, les nazis perdent 30 points ou 35 points aux élections de décembre 1932. Donc, la conclusion qu'en tire la hiérarchie nazie, je parle ici de Hitler, je parle de Goebbels, c'est que c'est terminé et que le parti nazi a échoué dans sa mission. tradition historique. Et c'est précisément à ce moment-là, revenons-en à nos médiocres, que des spéculateurs politiques, comme Franz von Papen, ont eu l'idée de génie de faire un coup de boursicoteur, en réalité, en achetant les nazis à la baisse. Et de fait, quand on compare les projections de gouvernement à l'été 32 et en janvier 33, à l'été 32, vous avez déjà des négociations hein, entre Franz von Papen, Kurt von Schleicher et Hitler sur et Röhm et Göring sur un gouvernement de coalition droite-extrême droite, ce qui va se faire en janvier 33. Eh bien, les projections, c'est quand même 5 à 6 ministres nazis à l'été 32. En janvier 33, ils sont plus que 2, et en réalité 1,5, puisque vous avez le ministre de l'Intérieur, Frick, qui était déjà ministre de l'Intérieur en Thuringe, dans le gouvernement du nom des droites, et vous avez Göring, qui est ministre sans portefeuille. C'est-à-dire qu'il participe au Conseil des ministres, mais il n'a pas autorité sur une administration. Donc là, vous voyez bien qu'on a été dégradé dans ses prétentions quand on est nazi, entre août 32 et janvier 1933.
Alors, merci pour cette mise en contexte. Vous voyez que quand on sort de Twitter X, des plateaux télé, etc., et c'est pour ça que c'est bien d'avoir une heure ensemble... Ben voilà, de but en blanc, ce résultat-là de 37,3, on le balance, c'est facile derrière de faire des arguments politiques dessus, mais quand on le remet dans le contexte, comme tu viens de le faire, ça permet de comprendre l'efficacité, l'efficace de ce vote-là.
Si je puis me permettre, d'ailleurs, parce que tu aimes bien les chiffres et les courbes, et tu as raison, et tu parlais des élections du 5 mars 33. Prenez n'importe quel manuel scolaire, vous aurez une courbe, qui est une courbe ascendante, qui relie des points. Alors, depuis 1928, on part de 2,6, on arrive à 37,3. Quand on est un peu honnête, il y a un petit fléchissement, et puis pouf, on remonte vite à 44%, puisque de fait, le parti nazi fait 44% des voix aux élections du 5 mars 1933. Mais Nicolas l'a bien rappelé, ces élections sont totalement invalides. Moi, je trouve extravagant que on cite comme scrutin valable et mesure possible de la popularité des nazis des élections qui ne se sont en rien déroulées de manière démocratique. Je vous disais que Göring arrive comme ministre sans portefeuille au niveau du Reich, mais il est malin, il se fait bombarder ministre de l'Intérieur de Prusse, puisque la Prusse a été assujettie au contrôle du Reich depuis le 20 juillet 1932. Et là, comme ministre de l'Intérieur de Prusse, enfin, comme ministère du Reich à l'intérieur en Prusse, il domine non seulement l'administration prussienne, mais la plus grande police du Reich. La police, il n'y a pas de police nationale, création des nazis, comme création de Vichy en 1941 en France, la police nationale au passage. Mais il n'y a pas de police nationale, c'est un attribut des Länder. Eh bien, Göring, à la tête d'une force de police de 90 000 hommes, auquel il adjoint d'ailleurs 50 000 SA et SS à partir du 22 février 1933, Göring va faire bon ménage et va veiller à ce que la campagne électorale soit impossible. Dans ses mémoires, Heinrich Brüning lui-même dit que lui-même, catholique du Zentrum, homme de droite, etc., n'arrive pas à faire campagne. Vous imaginez le SPD et les communistes. Hein. Donc, et puis par ailleurs, bon, les circonstances, enfin les conditions réelles de l'exercice du scrutin, du suffrage le 5 mars 33 sont tous sauf amicales. Hein. Je veux dire, quand vous avez un SA qui regarde par-dessus votre épaule quel bulletin vous avez pris, qui vous accompagne complaisamment à l'isoloir et qui vous accompagne à l'urne, effectivement, ça peut avoir une influence sur votre vote. Hein.
Alors, on va pas faire une discussion de spécialistes, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je n'ai jamais compris pourquoi, dans l'historiographie allemande, on considère cette élection comme, dans la tendance générale, le Parti
Alors,
communiste...
Plus maintenant, Longerich, c'est oui, terminé. Hein.
Mais Là, ça va être compliqué. Là. Mais le Parti communiste est interdit. Je crois que c'est... Détrompe-moi, mais c'est le moment où Göring dit « Chaque balle qui sort de vos pistolets est une de mes balles. »
Oui.
Ça donne pas vraiment envie de...
Il n'y a pas de bavure policière, dit Göring. Hein, voilà. Chaque fois que j'entends je lance policière, je m'étouffe, aurait-il pu dire. Mais, je pense c'est à peu près de cet ordre-là.
Alors, c'est ma dernière question, on y reviendra. Alors, juste, je pense qu'un des éléments qui est important de restituer quand même, et même si encore, c'est pas nécessairement ton propos central, en tout cas dans ces deux derniers livres, mais tu connais ces questions-là, au final... Tu parles des élites, tu parles de élites au sens large, élites culturelles que tu connais très bien, élites politiques, élites économiques. Et tu fais quand même aussi, tu essaies de répondre à cette question d'histoire, de dire mais pourquoi alors ce tiers d'Allemands, pourquoi eux, ils ont pris cette décision. Tu as éclairé là les motivations de ces hommes-là et leurs errements. Pourquoi les Allemands font ça? Alors, à un moment donné, avec ton sens de la formule à l'écrit, à l'oral, tu dis ils font la courte échelle inlassablement faite par l'argent au fascisme. J'ai bien aimé, page 57. Et tu dis cette petite bourgeoisie et bourgeoisie patrimoniale qui, je cite, embrasse l'extrême droite. À après toutes ces années à travailler sur la thématique, et toi qui connais bien l'histoire dans le temps long, tu as fait aussi ce livre au PUF sur l'histoire de l'Allemagne au 19e, 20e, comment t'expliques ce phénomène? Comment t'éclaires ça? Le fait que ce milieu protestant, il glisse complètement aussi vite vers l'option nazie.
Alors bon, il y a des déterminations, on va dire, socio-économiques, des déterminations, des facteurs culturels. Effectivement, on a beaucoup insisté, c'est très intéressant, sur l'affinité élective, pour parler dans les termes de Goethe, hein, qu'il pouvait y avoir entre culture protestante et non pas esprit du capitalisme, mais esprit du nazisme en l'occurrence. Tradition autoritaire, répudiation de toute contestation, de toute critique sociale, sacralisation du pouvoir, hein, Fürchte Gott, Ehre den König, hein, crains Dieu et honore ton roi. Hein, c'est ce qu'on trouve souvent sur le fronton en fer forgé des églises luthériennes. Effectivement, on se rend compte que les zones protestantes, qui sont très largement aussi des zones démagifiées, hein, je reprends au sens littéral le terme de Entzauberung, le terme allemand de Entzauberung, qu'on traduit soit par sécularisation, soit pour, comment on dit en français,
désenchantement,
mais littéralement, c'est la démagification du monde. Hein. Bon, c'est vraiment une opération protestante qui a été bien montrée. Alors, je renvoie aux travaux de Denis Crouzet, hein, sur le 16e siècle et sur le fait que le protestantisme vide le monde de la présence de Dieu. Hein. Bon, contrairement aux catholiques qui, eux, au contraire, ont tendance à réinjecter du divin, réinjecter de la magie, ne serait-ce que par l'Eucharistie. Hein. L'Eucharistie est une opération de magie, au sens littéral, hein, puisque vous avez une transsubstantiation. Vous n'avez pas ça chez les protestants. Bon. Donc il y a eu quelque chose de l'ordre du démagification qui a trouvé une compensation dans les nazis, qui, eux, remagifiaient totalement, pour le coup, avec une eschatologie raciale, avec une épopée coloniale, avec... bref. Donc il y a eu quelque chose de l'ordre de la satisfaction culturelle, intellectuelle, psychique aussi, hein, dans un monde où, grâce aux nazis, on pouvait, je reprends une idée de Christian Ingrao, on pouvait faire le deuil de la mort de masse grâce aux nazis, ce qu'on ne pouvait plus dans un contexte de déchristianisation. Comment vous pouvez rendre compte et rendre raison de 2 500 000 morts, je parle d'un 1 800 000 au front et de 700 000 civils, lorsque tous les arguments qui légitimeraient le sacrifice ont disparu. Dieu n'existe plus, le Kaiser est parti sans laisser d'adresse, la patrie terminée, le Reich, on ne sait plus très bien s'il existe, etc. Les nazis offrent par l'idéologie ethno-nationaliste, par la biologisation du politique, offrent une manière de refaire à nouveau le deuil de tout cela. Alors que, de fait, c'est vrai, les zones catholiques, qui avaient eux-mêmes, enfin, elles-mêmes, leur contre-société, depuis Bismarck, au moins, n'ont pas eu besoin de la contre-société allemande ou de la contre-société nazie, pardon, ou de la remagification du monde par les nazis. Bon, ça, c'est pour le contexte culturel. Pour ce qui est du contexte socio-économique, on voit bien comment, et là aussi, je parle... vraiment sous ton contrôle, des segments ou des secteurs successifs de la société allemande basculent du côté nazi, et alors que d'autres ne basculent pas du tout. Vous avez le môle, sinon de résistance, du moins de réticence catholique. Parce qu'en gros, ils ont déjà leur droite et leur droite péchue, hein, et le BVAOP en Bavière, c'est-à-dire le parèdre du Zentrum en Bavière. C'est assez indiscernable de bien des discours nazis en réalité, hein, du point de vue du nationalisme, de la misogynie, de l'antisémitisme, de l'homophobie, du racisme, etc., du conservatisme, etc. Donc ils ont déjà quoi faire en fait avec l'aile droite du Zentrum, dont Papen est issu d'ailleurs, et avec le BVP. Mais pour ce qui est des secteurs qui ont l'autre secteur qui n'a pas basculé, c'est le secteur ouvrier. Alors là, pour le coup, je citais dans Les Irresponsables, je cite à nouveau ici toutes les méta-études qui ont été faites en termes de sociologie électorale sur le vote des chômeurs et ou le vote des ouvriers, qui montrent que, contrairement là encore à ce qui est bavassé à longueur de plateau généralement, c'est pas du tout les gueux, la plèbe, le populo qui a voté nazi, pas du tout. En l'occurrence, les ouvriers et ou les chômeurs ont été, il y a une corrélation négative entre leur statut social et le fait de voter nazi, c'est-à-dire que plus vous êtes ouvrier, plus vous êtes chômeur, moins vous votez nazi. D'où la progression continue, et c'est ça la panique hein, des élites patrimoniales à l'époque, c'est que le seul parti, le seul qui progresse de manière continue sur la séquence 28 fin 32, c'est le Parti communiste, c'est le KPD, qui passe de 10 à 17% de 28 à 32. Et alors là, pour le coup, il y a péril dans la demeure, il y a le feu dans la baraque. Parce que la perspective d'une soviétisation de l'Allemagne, elle n'est pas hypothétique à l'époque. Pour les élites patrimoniales qui ont vécu 1917 là-bas, à Saint-Pétersbourg, mais qui ont vécu aussi 1918 à la maison, qui ont eu en avril 19 une république soviétique en Bavière, vous imaginez un peu, qui ont vu la soviétisation de la Hongrie aussi, c'est pas très loin. Bref, il y a quelque chose de l'ordre de la panique qui s'est développé chez eux à cause de ça. Donc vous avez du côté de ceux qui basculent, typiquement, alors, mais ça aussi c'est connu depuis les années 30, c'est connu. De manière assez universelle, d'abord et avant tout par les marxistes, mais pas que. Tous les observateurs savaient que le petit bourgeois, par poujadisme, par anticommunisme, par peur de la révolution, par peur du déclassement social, va voter nazi. Idem les patrons de PMI, PME. Idem les grands agrariens. Voilà les secteurs qui basculent dès 1930. Et ensuite, vous avez des portions croissantes du capital patrimonial allemand qui bascule avec des hésitations, et les derniers à basculer, à mon sens, ce sont les représentants du capital exportateur. Parce que les nazis ont des velléités autarciques. Lorsque vous êtes industriel de la roue et que vous dépendez à plus de 80% des exportations, vous êtes peu porté à l'autarcie. Et donc, c'est ce secteur-là qui a le plus de réticence à basculer, mais qui le fait en gros de novembre 32 avec la Eingabe, enfin, la supplique qui est adressée à Hindenburg pour qu'il nomme enfin Hitler chancelier. Et alors là, l'aplaventrisme généralisé et final, c'est la fameuse réunion du 20 février 1933 chez Göring, où là, le capital passe à la caisse avec un don de 3 millions de marques, c'est-à-dire en gros 25 millions d'euros pour la campagne électorale. C'est l'objet d'ailleurs du livre de Prix Goncourt hein, d'Éric Villard qui s'appelle l'ordre du jour. Donc il y a eu évidemment conjonction, cumul, accumulation de facteurs socioculturels de long terme, convocables hein, et intéressants, toujours discutables, et de facteurs pour le coup socio-économiques plus immédiat et plus sonnant et trébuchant, qui retiennent l'attention précisément de quelqu'un comme Brecht, qui s'est formé au matérialisme historique et qui y trouve une clé de lecture fondamentale pour lire ce qu'il se passe en Allemagne à cette époque. De fait, et tu l'as dit en introduction, les études historiennes n'ont fait que confirmer cela.
Ce que j'ai bien aimé dans le livre, c'est effectivement ce que tu viens de dire là à l'oral, c'est ce côté affaissement par secteur, c'est-à-dire, et par secteur qui ne sont pas seulement des secteurs socio-économiques. Mmh. C'est vrai que dans l'histoire quantitative, de temps en temps, une fois qu'on a mis une classe sociale, on considère qu'elle existe, etc. Et tu montres bien comment en 3-4 ans, les ralliements se font de plus en plus rapides et funestes. Hein. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là de penser par secteur. Et effectivement, je te rejoins, hein, toujours dans la précision, les chômeurs du monde des ouvriers votaient pour le Parti communiste. Les chômeurs du monde des employés des cols blancs votaient en surreprésentation pour les nazis, mais en termes quantitatifs généraux, ça ne fait pas une valeur absolue. Et donc cette courbe, tu parles de courbe, je te rejoins, mais vous avez tous vu cette courbe avec le chômage, le vote nazi. Oui. Et en fait, ce n'est pas une courbe directe, hein, c'est une courbe non pas de causalité, mais de corrélation. Mmh. C'est les gens qui avaient peur de devenir chômeurs qui votaient pour les nazis, et ça inspire un auteur de l'époque qui s'appelle Geiger, dès octobre 30 ou novembre 30, un texte qui s'appelle « Panique im Mittelstand », « Panique dans la classe moyenne ». Donc ça, c'est important de le rappeler. Ça ne veut pas dire que les ouvriers n'ont pas voté pour Hitler, hein, ils sont simplement sous-représentés. Ah oui. Et voilà, il faut être précis, parce qu'effectivement, sinon, on aligne des généralités. Heureusement, on a du temps ce soir. Ça m'amène à ma dernière question, pour laquelle il nous restera 10 minutes, et puis ensuite, on passera à vos questions. Cette question a déjà été posée, ça revient dans l'essai à partir de la page 25. Tu revendiques, et je pense que les gens te connaissent pour ça, des livres d'histoire très sérieux, très érudits, dans une langue parfois voilà, qu'il faut affronter. Et il y a aussi le Johann Chapoutot public de l'oral, où tu vas être plus direct dans tes analogies avec aujourd'hui, comme tu le fais à fleur et moucheté là. Quelle place tu donnes à tout ça? Tu le dis, j'ai bien aimé la formule encore une fois, tu dis « cette histoire est toujours à l'affiche ». Au 21e siècle, ça t'est parfois reproché. Quelle place tu donnes à la, non pas alors à la comparaison, mais à l'analogie. Comment tu te positionnes en tant qu'historien sur tout ça et comment ça t'aide à penser le présent?
Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Il y a une question, on va dire, d'ordre épistémologique ou scientifique, qui est effectivement le raisonnement par analogie. Bon, et avant même l'analogie, tout simplement, la comparaison en histoire. Tous les historiens, toutes les historiennes comparent par définition, dans la mesure où, même sans le savoir et de manière tacite, le questionnaire que nous adressons au passé est un questionnaire du présent, toujours. C'est une banalité de le rappeler, mais il vaut de le rappeler, puisque on imagine parfois dans l'espace public un historien qui, comme le disait je ne sais plus qui au XVIIe siècle, ne serait d'aucun temps, d'aucun lieu, dont ça n'existe pas. On est toutes et tous situés, et c'est pour ça que vous avez des registres historiographiques ou des vagues historiographiques différentes. On ne faisait pas de l'histoire de l'environnement de l'Empire romain il y a 40 ans, on ne faisait pas d'histoire des femmes en Grèce classique il y a 50 ans, et de fait, on le fait maintenant, parce que les questions que nous adressons au passé sont nécessairement des questions du présent. Et c'est bien de le savoir, c'est bien de le dire, c'est bien de mettre en perspective des choses, ce qui n'empêche pas, évidemment, ensuite, de faire un travail sérieux, honnête, à charge et à décharge, comme nous le faisons. Donc ça, c'est le registre, on va dire, épistémologique. Ensuite, il y a le registre plus pratique de l'historien dans la cité. Moi, je suis toujours surpris quand, ici et là, on parle d'historien engagé. Alors, historien engagé, oui, volontiers, mais dans sa discipline. Il me semble que, moi, je suis comme toi, prof. J'ai des étudiants en face de moi. Et je le dis d'ailleurs dans Les Irresponsables, j'en suis venu à travailler cette histoire politique des années 30-33, alors que ce n'était pas vraiment mon champ ni mon registre historiographique, tout simplement parce qu'en tant que citoyen, je me posais des questions, j'étais éberlué par ce que je voyais d'un point de vue politique dans mon pays et ailleurs. Je constatais d'ailleurs, de manière multiple et répétée, les références aux années 30, de la part des commentateurs, comme de la part de certains acteurs. Parce que lorsque vous posez fièrement sur votre compte Facebook avec une casquette nazie, ou lorsque vous faites tatouer des runes SS en militant dans certains partis, vous faites une référence aux années 30. En l'occurrence, c'est pas l'historien qui l'a fait, ce sont les acteurs politiques. Et par ailleurs, constatant tout cela, voyant aussi comment certains concepts qui avaient été créés typiquement en 1932, comme le concept de libéralisme autoritaire, qui est un concept inventé à l'automne 32 par Hermann Heller, professeur de droit, avocat, social-démocrate, pour désigner la politique de von Papen et de son conseiller Carl Schmitt. Eh bien, voyant tout cela, je reprenais en cours à la volée des analogies, des exemples, des comparaisons, en disant, bah tiens, quand même, ce qu'il se passe actuellement dans nos démocraties me fait quand même furieusement songer à des configurations sociales et politiques, sociopolitiques, qu'on a déjà vues et que je connais un petit peu comme historien de l'Allemagne. Et c'est pour travailler plus sérieusement cette question que, au lieu d'évoquer tout simplement mes souvenirs en cours et en parlant librement, là aussi, il y a quand même, il faut préciser que lorsque on parle dans l'espace public ou l'on parle en cours, on ne récite pas un article scientifique, note de bas de page incluse. Il y a une oralité, un mode d'expression qui est différent forcément de l'exposition scientifique un petit peu plus contrainte, sinon rigoureuse, de l'écrit. C'est tout à fait normal et quiconque a enseigné ou quiconque enseigne le sait. Donc ce procès qui est parfois fait à des historiennes et des historiens consiste à dire « Ah, mais vous n'êtes pas très rigoureux », mais si, on l'est. Il suffit juste, mesdames et messieurs les journalistes, ça paraît peut-être absolument, insurmontable, il suffit juste d'ouvrir un livre, peut-être, et de voir quels sont les travaux sur lesquels reposent nos interventions, que ce soit en cours ou dans l'espace public, lesquelles interventions sont pleinement légitimes, à mon sens, puisqu'elles sont adossées à un travail scientifique qui, pour le coup, encore une fois, quand on se donne la peine peut-être d'aller en librairie de temps en temps, permettent précisément cette expressivité-là. Donc, historien engagé, oui, mais engagé pleinement dans sa discipline. Je suis heureux que mes étudiants ne s'ennuient pas trop en cours, premièrement, et deuxièmement, voient tout l'intérêt qu'il peut y avoir à faire de l'histoire. J'aime bien citer cette phrase de Durkheim. Vous savez, Durkheim, père de la sociologie en France, alors d'un positivisme sourcilleux, d'un quantitativisme rigoureux, mais qui disait, en dépit de ce surmoi positiviste, si la sociologie n'est que de l'art pour l'art, elle ne vaut pas une heure de peine. Alors, on peut aimer sa discipline, et personnellement, je l'aime de plus en plus, la mienne, mais pour plein de raisons. Mais de fait, elle n'est pas que de l'art pour l'art. Elle n'est pas qu'une direction poétique ou métaphysique. Ce qu'elle est aussi, hein, elle est également quelque chose qui... Enfin, un levier d'élucidation, d'intelligence du social et du politique immédiatement mobilisable pour ici et maintenant. Et c'est une des raisons pour lesquelles, un, j'aime l'histoire, et deux, je pense que... un auditoire, un public, un lectorat ou des étudiantes et étudiants s'intéressent à cette discipline.
Merci pour cette réponse qui est presque un plaidoyer. Johann Chapoutot, une histoire bien connue, et la résistible ascension d'Arthur Houy de Bertolt Brecht, traduit dans une nouvelle traduction par Alexandre Pateau. Merci beaucoup pour tes réponses.
Merci à toi.